Bon, alors vous avez sûrement entendu la nouvelle ce matin, c'était partout, la Cour suprême du Canada qui a finalement tranché dans ce qu'on appelle l'affaire Comeau avec un jugement unanime pour le maintien des limites en matière de commerce interprovincial. Dans ce cas-ci, là, il était question notamment de bière et de spiritueux. Alors pour essayer de comprendre la portée du jugement, on va tout de suite aller retrouver Maître Julien Fournier. Il est avocat, il est étudiant au doctorat également à la faculté de droit de l'Université Laval. Maître Fournier, bonjour.
Bonjour, M. Brûlé.
Et merci d'être avec nous là, pour nous vulgariser tout ça aujourd'hui. C'est quand même assez complexe, là. Donc, c'est un jugement qui découle de l'arrestation en 2012 d'un homme qui s'appelle Gérard Comeau, un résident du Nouveau-Brunswick, intercepté en possession de 14 caisses de bière et 3 bouteilles de spiritueux achetées au Québec. Il a décidé de contester. Il y a eu plusieurs rebondissements dans l'histoire. Expliquez-nous ça, Maître Fournier.
Oui, il a été accusé en cour provinciale du Nouveau-Brunswick d'avoir eu en sa possession de l'alcool qui n'avait pas été acheté au monopole provincial, qui est l'Alcohol and Beer Liquor, l'équivalent de la SAQ au Nouveau-Brunswick, et il a été inculpé. Là, c'est une amende de 300 $, c'est peu de choses au final. Et puis en cour provinciale, il a admis les faits, tout simplement, mais il s'est défendu en disant, vous savez, la loi par laquelle vous m'accusez est inconstitutionnelle parce qu'elle violerait l'article 121 de la loi constitutionnelle de 1867 qui dit que les biens d'une province doivent être admis, selon le texte, en franchise dans l'autre province. Et donc, la loi est inconstitutionnelle. Le juge de la cour provinciale a accepté son argument, l'a acquitté et a de ce fait même écarté des précédents, des arrêts de la Cour suprême du Canada qui disaient au contraire que l'article 121 n'avait pas pour effet d'empêcher une province d'établir un monopole provincial d'alcool. Et donc, il a été acquitté. Évidemment, la couronne provinciale, le poursuivant, a porté la cause en cour d'appel. La cour d'appel n'a même pas voulu entendre la cause. Et la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre l'appel et on a eu jugement aujourd'hui.
Oui, puis là, ça s'est mis à paniquer un petit peu, pas juste au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada, quand lui avait gagné sa cause là en première instance.
Non, effectivement, là, dans chacune, l'essentiel des provinces ont des monopoles sur l'alcool, empêche donc d'avoir en sa possession ou d'importer de l'alcool, exemple par Internet, là, d'une autre province. Il y a d'autres régimes comme ça qui réglementent là, le commerce, si on pense au blé, aux œufs, au lait, la volaille, il y a le sirop d'érable, il y a bientôt le cannabis. On pense au Québec qui veut établir un monopole provincial sur le cannabis. Donc, c'est un peu la panique. Toutes les provinces, à peu près, sont intervenues devant la Cour suprême pour défendre leur point. Des entreprises d'alcool, de cannabis, la Chambre de commerce canadienne, l'Institut économique de Montréal sont intervenus devant la Cour suprême pour défendre de leur côté un libre-échange un peu plus absolu qui serait conditionnalisé.
Donc, c'était David contre Goliath et dans ce cas-ci, c'est Goliath qui a gagné.
Du côté de M. Comeau, on doit dire qu'il y avait beaucoup d'entreprises et beaucoup d'intérêts qui partageaient ses vues et qui l'ont très certainement soutenu. Là.
Alors, c'est pas lui qui a payé ses frais d'avocat probablement dans cette bataille-là.
Bon, j'imagine que 300 $ d'amende, c'est rare qu'un particulier comme ça se rend jusqu'en Cour suprême. Là. Il y a des avocats qui ont soit travaillé bénévolement ou il y a des gens qui étaient derrière lui. Là.
On se comprend. Bon, si on reste dans l'alcool, donc, aujourd'hui, c'est notamment un immense soulagement pour la SAQ.
Tout à fait. Tout à fait, la SAQ qui, suivant le test que la Cour suprême a établi là, concernant l'article 121, vraisemblablement respecte ce test-là. La SAQ et les lois qui la régissent ont pour objet non pas de limiter le commerce entre les provinces, mais de mettre en place des limites quant à l'approvisionnement d'alcool, la vente, l'utilisation, ce que la Cour suprême a accepté dans le cas du Nouveau-Brunswick et qui vraisemblablement elle accepterait aussi pour ce qui est du régime de la SAQ au Québec. Et donc, la SAQ va pouvoir maintenir son monopole et finalement empêcher les gens soit d'importer de l'alcool par voie terrestre ou par livraison par Internet, par exemple.
Bon, ma prochaine question, là, tout le monde qui nous écoute se la pose, c'est sûr. Nous, on vit dans la région de Gatineau, Ottawa. Donc, des Québécois qui achètent du vin en Ontario parce que c'est moins cher ou des Ontariens qui achètent de la bière au Québec pour la même raison. Ça se passe au quotidien ici dans notre région. Techniquement, est-ce que ça demeure illégal?
Eh bien, ça dépend des lois provinciales en vigueur. Celles du Québec et de l'Ontario, je ne les connais pas. Il y a aussi une loi fédérale là, qui interdit l'importation, mais généralement, il y a des limites raisonnables. la limite raisonnable, c'est quelques bouteilles sans problème. Est-ce que c'est aussi des infractions qui sont régulièrement poursuivies? J'en doute. Hein. C'est assez exceptionnel l'intervention que la GRC a fait auprès de M. Comeau. Mais chose certaine, dans son cas, il avait une quantité quand même assez grande. Il avait une quinzaine de caisses de bière,
ouais.
En plus des grosses, des caisses de 24 ou des caisses de 30 canettes. C'est pas une quantité qui est raisonnable au sens des lois applicables, mais pour des petites quantités, je pense pas qu'il n'y ait de problème dans l'état du droit.
Non, ben c'est ça. Moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est fait arrêter pour 2-3 caisses de bière ou 3-4 bouteilles de vin, là.
C'est généralement, non, c'est pas ça qui est poursuivi, là. C'est de l'importation en plus grande quantité.
Mais ça, est-ce qu'on en parle dans le jugement? Est-ce qu'on établit ce qui serait une quantité raisonnable ou tolérable?
Non, pas du tout. Parce que ce que la Cour suprême fait, c'est qu'elle dit que la province a le pouvoir, parce que c'est accessoire à son régime, voire même jusqu'à interdire l'importation de biens. Et donc, ce sont les lois telles qu'elles sont en vigueur. Il faut les consulter, les prescrire des quantités qui varient d'une province à l'autre. Puis ça demeure en l'état comme si rien n'était.
Bon, c'est assez simple à comprendre pour ce qui est de l'alcool, parce qu'on est habitué, là. Mais ça aurait été quoi l'impact d'un jugement contraire, pour exemple, les producteurs de lait, de volaille ou de sirop d'érable?
Bien, c'est les régimes, là. Dans la minute où des barrières tarifaires sont installées dans le but, par exemple, de maintenir les prix plus élevés, si la Cour suprême était arrivée à la conclusion où le libre-échange devait être absolu au Canada, c'est clair que ça aurait été des mesures qui auraient pu être en péril.
Comme exemple, au Québec, il y a un prix plancher pour le lait, ce qui n'existe pas dans d'autres provinces. Là, ça veut dire que tout ça aurait tombé, là.
Pas automatiquement, non, parce que là, c'est le cas de l'alcool. Après, il aurait fallu, suivant le jugement hypothétique que la Cour aurait rendu, que des gens viennent contester ça. Et puis là, ils réussissent à prouver à la Cour que c'était bel et bien des tarifs. Mais là, c'est un jugement qui n'a pas été rendu, donc on spécule rendu là.
Oui, ça aurait été quand même assez majeur comme situation si le jugement avait été contraire aujourd'hui.
Ça aurait limité grandement la compétence des provinces de légiférer pour mettre en place n'importe quel type de mesures là, qui ont des effets. Là. Pense aux pesticides aussi, par exemple. Là. Moi, je sais que dans certaines provinces, les pesticides ne peuvent pas être importés. Bien, c'est des limites qui auraient hypothétiquement pu tomber s'il y avait eu un libre-échange absolu. Là.
Parmi les réactions qu'on peut lire, il y a aussi des gens extrêmement déçus aujourd'hui, des gens qui disent que le Canada est pour le libre-échange avec plein d'autres pays, mais pas entre ses propres provinces. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Il y a une différence majeure. Là, ici, c'est qu'on demandait à la Cour d'empêcher les provinces et le fédéral d'établir certaines limites pour toutes sortes de raisons qui sont les leurs, tandis qu'ils peuvent, suivant le jugement qui a été rendu, tout à fait établir le libre-échange. On peut se présenter aux élections, être élu dans une des chambres parlementaires au Canada, puis mettre en place le libre-échange. Il n'y a pas de problème à ça. La Cour n'empêche pas ça, comme les provinces et le fédéral établissent des lois de libre-échange avec d'autres pays. C'est des choses qui sont faites au cas par cas, par négociation, puis par les élus de la population.
Avant de vous laisser, je vous écoute, là, Maître Fournier. Vous n'êtes pas surpris, vous, du jugement qui a été rendu aujourd'hui?
Surpris par le fait qu'il est unanime. Ça, oui. Sinon, n'importe quoi aurait pu sortir là, de la Cour. Par contre, ce qui n'est pas surprenant, c'est que normalement, la Cour suit ses précédents. C'est ce qu'elle a fait dans cette affaire-là. Donc, elle maintient en quelque sorte l'état du droit en sens, ce n'est pas surprenant. Mais en d'autres, là, avec le battement médiatique, on pouvait s'attendre à peu près à n'importe quoi.
Et pour les gens qui s'inquiétaient pour M. Comeau, là, son amende qui était rendue à 300 quelques dollars, je pense que la Cour l'a annulée aujourd'hui quand même.
J'ai pas remarqué. Moi, je crois avoir vu que le pourvoi du ministère public avait été accepté. Je sais pas à quelles conditions. Je sais en tout cas que tous ces frais de l'éteinte judiciaire, tous les frais de justice qui sont pas les honoraires d'avocat, la Cour avait déjà condamné le gouvernement provincial à lui payer parce que c'est une cause à l'intérêt public. Tout ça, lui avait peu de choses à gagner personnellement.
Maître Fournier, merci beaucoup pour l'entrevue.
Merci beaucoup, M. Brûlé.
À la prochaine. C'était Maître Julien Fournier. Il est avocat, il est étudiant aussi au doctorat à la Faculté de droit de l'Université Laval.
L'Outaouais maintenant. 104.7 Outaouais.
Petit suivi concernant le dossier du transport d'alcool entre provinces, là. Ça va peut-être rassurer du monde qui était à l'écoute il y a un instant. On a revérifié, puis ce que je comprends, c'est que le jugement d'aujourd'hui changera absolument rien là-dedans. Alors, comme citoyen québécois, si vous allez acheter de l'alcool de l'autre côté de la rivière en Ontario, vous avez le droit par transport. Donc, par voyage, vous avez le droit de ramener 3 litres de spiritueux, donc 4 26 onces, 9 litres de vin, donc 12 bouteilles de 750 millilitres, et on me dit 24,6 litres de bière, ce qui donne 3,24. Pour être précis, c'est 3,24 en bouteille, Mathieu. Mm-hmm. Parce que les bouteilles, c'est 341 millilitres.
Tout à fait.
Mais les canettes, c'est un petit peu plus gros, c'est 355. Alors, techniquement, 3 caisses de 24 de canettes, vous seriez en légère infraction.
Oui, mais je vais vous donner un truc du vendredi. Moi, là, achetez-la au Québec, votre bière est moins chère.
Effectivement. Puis je pense que c'est à peu près la même chose, mais là, je ne veux pas dire n'importe quoi pour ce qui est des Ontariens qui viennent ici. Mmh. Je pense qu'on a à côté ça, les deux provinces, là, vu qu'on est collé-collé. Mais je pense pas non plus que les policiers vont vous arrêter parce que vous avez des canettes au lieu des bouteilles. Là, c'est une
Après
différence.
Ça va être une bonne soirée.
Après ça, ça devrait être un pas pire party, effectivement. On vise surtout les commerçants ou encore les gens qui feraient du marché noir, là, des contrebandiers.